C'est à travers le renouveau du pastiche d'anciens cow-boys de Big Reset que j'aimerais aborder la problématique de l'intertextualité. Pourquoi parler de renouveau? Quelles sont les définitions traditionnelles du pastiche que le roman de Big Reset s'emploie à dépasser? Dans Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, série d'études que Frederick Jameson consacre au postmodernisme, Jameson fait du pastiche l'emblème d'une société capitaliste où la culture elle-même est devenue une marchandise. Comme nous l'a dit M. Jennings ce matin, la pratique omniprésente du pastiche marquerait pour Jameson la disparition du style, entendu comme ce que l'on possède d'unique et de plus personnel, et scellerait le triomphe d'une pratique neutre du mimétisme. Neutre, car amputée de l'impulsion satirique et du sens de l'humour qui, aux yeux de Jameson, caractérise la parodie. Ainsi, contrairement à la parodie qui dévierait de la norme sans toutefois jamais l'annihiler, le pastiche ne reconnaîtrait plus aucune norme, se contentant de reproduire des styles indifférenciés et fossilisés. J'aimerais montrer que cette notion de neutralité, invariablement associée aux définitions du pastiche de Jameson, certes, mais aussi de Margaret Rose ou de Nina Hutchins, n'est pas opérante dans le contexte postcolonial. Le pastiche ne saurait en effet se réduire chez Big Reset à un simple exercice de style, un jeu autopélique dénué de recul critique. Loin de porter la marque d'un quelconque relativisme, il acquiert au contraire une dimension critique. Cette étude, j'ai donc choisi de la placer dans le prolongement des analyses de Nathalie Martinière sur le travail de reprise littéraire en contexte postcolonial, analyse qu'elle mène dans « Figure du double » du personnage au texte, paru en 2008. Je m'efforcerai ainsi de montrer que le choix du redoublement en différence entre raillerie et révérence engage l'auteur postcolonial dans une véritable quête identitaire. Issu de la génération des enfants de minuit, Vic Rousset s'inscrit de manière éminemment originale dans le renouveau de la production littéraire postcoloniale. L'hybridité caractérise l'œuvre tout entière de ce bâtard magnifique, pour reprendre la formule de Samuel Rochely, du récit de voyage au recueil de poésie. Entre vers et prose, Dick Rousset s'est en effet essayé à tous les genres. Son premier roman, The Golden Gate, que le public français a pu découvrir tout récemment grâce à la traduction unanimement saluée de Claro, est ainsi composé de sonnets tétramétriques à la manière d'Eugène Onegin de Pouchkine. Roman en vers, donc, traduction de poète chinois, fable pour enfants, biographie et même livret d'opéra. Cette hybridité générique, l'étonnante variété des formes que Big Reset épouse tour à tour, manifeste un refus obstiné du cloisonnement et interdit toute tentative de réaffiliation. L'hétérogénéité saisissante de cette production littéraire, en apparence sans refuge donc, semble cependant se résorber dans une pratique débridée, bien que tout à fait organisée, de l'intertextualité. Ainsi, du concept, dans chacune de ses œuvres, se place-t-il immanquablement en situation de répétition, comme le démontre à merveille le Sud Boy, œuvre massivement hypertextuelle publiée en 1993. Pastiche de la grande tradition littéraire victorienne, le Sud Boy adopte l'intrigue linéaire et le réalisme des romans du 19e siècle, s'inscrivant à cet égard en contrepoint du roman postcolonial. Entre raillerie et révérence, désir d'imitation et volonté de changement, ce monstre amorphe, pour reprendre la formule de Henry James au sujet du roman fleuve, Large Loose Baggy Monster, se réapproprie en effet le canevas de Middlemarch et revisite dans le même temps l'un des thèmes de prédilection de Jane Austen. Et ce nouveau boy relate en effet les difficultés d'une mère à dénicher un homme comme il faut pour sa fille. La prose de Seth, blanche, non marquée, peu accentuée, révèle l'affiliation de l'auteur au canon victorien. Cette écriture délibérément lisse, sans aspérité, aux antipodes de Salman Rushdie par exemple, ne trahit en effet nulle autre appartenance, nulle généalogie. Alors, pourquoi Vic Reset s'efforce-t-il aussi ostensiblement de conserver un héritage textuel occidental? La reprise dans le Boy des topoïs occidentaux ne saurait se réduire à une simple répétition mécanique ou nostalgique de textes toujours déjà écrits. Le pastiche auquel se livre l'auteur relèverait-il donc d'une utopie quelque peu lénifiante, bien qu'idéologiquement très engagée, de la mondialisation, d'une uniformisation téléologique des discours, où tout le monde en somme finirait par écrire la même chose, où on assisterait au retour indéfini du même? Ainsi se trouve-t-on face au problème d'élaborer un cadre analytique susceptible de cerner avec justesse la relation critique que Wittgenstein établit avec le canon littéraire anglais. Celui-ci ne peut être défini ni par la négative au moyen d'une simple posture de rejet ou d'opposition, ni uniquement par un rapport d'adhésion ou de transmission. Les critiques consacrées à Seth, tant francophones qu'anglophones au demeurant, ont pourtant privilégié une approche binaire, tantôt élogieuse, tantôt réprobatrice. A Silver Boy est ainsi vu comme une preuve irréfutable de la domination sans partage du modèle littéraire anglais sur son ère culturelle, ou au contraire comme un contre-discours, la revanche, pour ainsi dire, de l'empire colonial britannique. Il s'agira pour nous de dépasser cette approche forcément réductrice pour montrer comment le glissement des contextes d'énonciation dans le Silver Boy et la réactualisation de la norme victorienne permettent à Wittgenstein d'affirmer avec force la valeur politique de l'art. Au cœur de Silver Boy s'inscrit la question de la transmission d'un héritage textuel ainsi que celle consubstantielle de la filiation. À travers notamment le personnage d'Ustad Majid Khan, grand virtuose musulman en quête d'un disciple, le roman met en œuvre une réflexion métafictionnelle sur le pastiche. C'est ma citation, c'est ma première citation. Certainly, well, eyes are you that have it, said the Ustad Tafi. But there is something in you that goes beyond that. It struck him that possibly, but only just possibly, he may have found in Shaq that disciple whom he looked for now for years. Someone to whom he could pass his art, someone who, unlike his own frog boy's song, loved music with a passion, and who had that additional element of indefinable exclusivity, even when he copied his own phrases, which was the soul of music. But originality in composition, did he possess that, or at least the gem of such originality? Only time will tell, months, perhaps years of time. À la faveur d'une transposition, d'un franchissement des codes sémiotiques, de la littérature à la musique ou l'écriture comme mise en musique, Wittgenstein pose la question de l'originalité, si chère à toute une tradition littéraire qui vilipende l'imitation et nourrit des fantasmes d'auto-engendrement d'originalité absolue. À travers les interrogations du maître, transparaissent les préoccupations de l'auteur postcolonial qui se doit de définir sa place dans un espace-temps et une langue où les limites entre soi et l'autre sont problématiques. C'est en introduisant du jeu dans les rouages bien huilés d'une tradition solidement ancrée que Wittgenstein trouve, pour filer la métaphore musicale, sa voix. Véritable hommage à la grande tradition littéraire victorienne, A Silver Boy manifeste la liberté qui, aux yeux de Salman Rushdie, constitue la prérogative du migrant, celle de choisir ses propres parents. On songe à la formule qui clôt le tout premier chapitre de Imaginary Homelands. It is perhaps one of the more pleasant freedoms of the literary migrant to be able to choose his parents. Le titre même de l'œuvre, variation sur l'expression A Proper Object dans Emma de Jane Austen, object signifie bien sûr man, cristallise le leitmotiv des romans de Jane Austen, la recherche effrénée d'un parti convenable, et inscrit de Silver Boy dans la droite lignée de ses romans. Ainsi se fait jour le paradoxe qui, selon le critique Lionel Duisit, constitue la singularité même du pastiche. Dans son analyse pragmatique des genres comiques, intitulée Satire, parodie, calembour, esquisse une théorie des modes d'évaluer, publiée en 1978, Duisit consacre en effet une section intéressante au pastiche auquel il attribue une motivation, entièrement ludique. Cette pratique mimétique serait ainsi une imitation qui s'affiche sans vergogne, annonce d'emblée une authenticité du texte, mais aspire dans le même temps à abolir l'écart stylistique qui le sépare de l'original. De fait, tout en s'efforçant d'établir l'illusion qu'il dénonce, Wittgenstein se plaît à multiplier les jeux de reflets. Ainsi, Mrs. Joe Palmera apparaît-elle comme le double de Mrs. Bennet dans Pride and Prejudice, comme en témoignent ses incessantes jérémiades. C'est ma citation 2. I have to do everything in this house and no one cares for me. I have slaved for you all my life and you don't care if I live or die. Only when I'm burnt on the pyre will you realize my worth. Jérémiade à travers lesquelles résonne l'éternelle litanie de Mrs. Bennet. I'm cruelly used. Nobody feels for my poor nerves. De même, la sulfureuse Minakshi est une réplique orientale de Rosamond, personnage de Middlemarch. Les deux femmes, qui se distinguent par leur grande beauté, ont toutes deux épousé, contre la vie de leur famille, un homme d'un autre milieu ou d'une autre caste, dans l'espoir de mener une vie fastueuse. toutes deux déçues par le mariage, voient passer sur leur vie le spectre des amours adultérées. Dans le roman de George Eliot, les descriptions de Rosamond sont ponctuées de références à son long cou gracieux. Aussi n'est-ce point un hasard si le passage consacré à Minachi dans Sudoku-Boy met malicieusement en valeur le cou de la jeune femme. Si Beckinsale rend hommage sur un mode essentiellement ludique au canon victorien, le pastiche fait dans le même temps violence au statut d'intouchable du classique, dont il menace l'intégrité en tant qu'unité de valeur absolue, objet fini et autonome, apparemment détaché de toute contingence historique. Ainsi, le classique apparaît-il non plus comme une entité discrète, mais comme un élément d'une chaîne. Discours ambivalent, porteur à la fois de répétition et de différence, Sir Roboy révèle les points obscurs des angles morts du roman victorien qu'il diffracte et investit. Ainsi, la description du Barsac Mahal nous livre-t-elle de manière métafictionnelle une information précieuse sur le fonctionnement de l'œuvre, véritable miroir des formes. Its reflection, je passe directement à la citation 4, its reflection in the water almost perfect, almost unrippled. L'adverbe, mis en valeur par la répétition et le rythme binaire, me semble tout à fait crucial. Dans cet interstice, se tapit en effet l'anamorphose. La formule évoque irrésistiblement le concept de mimicry, tel que le définit Oni Baba dans The Location of Culture, almost the same, but not quite. C'est à la lumière de ce concept fondamental que doit, me semble-t-il, être analysé le pastiche de Seth, qui oscille constamment entre imitation et dérision, ébranlant ainsi les structures idéologiques du roman victorien. Ainsi, la voix de la femme, que le roman victorien étouffe ou du moins contrôle, s'exprime-t-elle de manière saisissante dans la scène où deux courtisanes singent le plus repoussant et prestigieux de leurs clients, le Raja de Mar. J'aimerais lire ce passage très intéressant. They turn to the antics of the various clients. I be Mar, said Saidabai. You be me. No, I be Mar, said Taminabai. You be me. She was giggling away in high delight. She grabbed the flower vase, threw the flowers onto the table, and pretended to drink from it. Soon she was lurching from side to side and grunting. Then she made a lunge for Saidabai, who whipped the pen over Sari out of her reach. Taminabai's eyes grew blurred. Soon she was snoring on the carpet. After 10 seconds, she heaved her body up, cried wah, wah, and collapsed again, this time squealing and snorting with laughter. Then she leapt up again, upsetting a bowl of fruit, and flung herself on Saidabai, who started moaning in ecstasy. Then, at the moment of orgasm, Taminabai cried for whiskey, and finally she rolled over, belched, and went off to sleep again. They were almost choking with laughter. The parakeet was squawking in alarm. L'empressement des courtisanes à interpréter le rôle du Raja qu'elles se disputent révèle l'enjeu de cette scène. En mimant l'opération de domination, les deux femmes exercent incontestablement un contre-pouvoir. L'action redoutable des adverbes dans cette scène démontre en effet le mécanisme du pouvoir. Ainsi, les épanodes « se »,« then »,« again », adverbes constamment répétés, réduisent-elles son altesse à une marionnette grotesque, un pantin désarticulé. La mise à nu des mécanismes de la domination phallocrate provoque la jubilation, l'hilarité, mais la jubilation me semble être un mot plus juste, la jubilation des deux femmes. Constamment soulignée, celle-ci marque le retour du refoulé, la mise en scène de ce qui, dans le roman victorien, demeure hors champ, relève précisément de l'obscène, j'entends le défi de la femme à la société patriarcale et phallocrate. Le pastiche, dans Un seul roboy, percerait ainsi à jour la doublure du roman victorien, son tissu idéologique. La présence du perroquet dans ce passage n'est bien sûr pas anodine. Symbole du mimétisme, le perroquet permet en effet de décoder cette scène comme une mise en œuvre du processus de mimicry, comme une copie altérée, brouillée, tel un symptôme, le terme « blurred » au milieu de mon extrait, pointe du doigt ce phénomène. En souscrivant au régime du miroir déformant, le pastiche se fait donc le vecteur d'une véritable affirmation politique. Le Superboy souligne en effet que le pouvoir n'est jamais total et ne peut anéantir une subjectivité qui lui résiste. En ce sens, le roman de Beckinsale est bien un contre-discours postcolonial tel que l'ont mis en lumière les auteurs de The Empire Writes Back. Comme en témoigne également le jaillissement dans l'anglais pourtant très lisse et ciselé de Beckinsale de vocables tels que palou et bye transcrits sans traduction. Il s'agit là d'un acte politique qui inscrit la différence culturelle dans le texte. lieu du rejet de l'identité fixe, le pastiche de Bekunsat met en valeur la réversibilité des postures, comme nous le révèle de manière assez saisissante cette scène. Un poème raciste de Tennyson qui provoque l'indignation de Lava, l'un des personnages principaux du roman, offre à l'auteur l'occasion d'introduire, par le truchement du narrateur omniscient, une réflexion sur la contingence des rapports de force. C'est la citation 6. She did not consider the fact that if the conquest had taken place the other way around, there would have been equally unspeakable poems, probably in Persian, possibly in Sanskrit. She felt a great burst of pride for Sevilla's father-in-law, who had played his part in throwing the English out of this country, and she momentarily forgot all about Safia Convent and Emma. Dans une bouffée de patriotisme, Lava rejette l'héritage anglais dans son ensemble, allant jusqu'à disqualifier le roman de Jane Austen, alors même qu'elle tire un grand plaisir de sa lecture. La voix narrative, au contraire, tempère cet élan. Plutôt que de sombrer avec le personnage dans un chauvinisme exacerbé, elle préfère en effet interroger des représentations rigides et essentialistes. Derrière ce refus affiché des oppositions trop simplistes, se dessine en filigrane un véritable manifeste littéraire. Comme le révèle la référence explicite à M1, qui clôt l'extrait, Bekunsat revendique en effet son droit à puiser à toutes les sources, son inspiration à toutes les sources, fussent-elles occidentales. Par le truchement d'Amit, poète et double de l'auteur dans l'œuvre, Seth dénonce en effet un fantasme de pureté. Even Sanskrit came to India from outside, déclare le poète lorsqu'on le somme avec véhémence d'expliquer pourquoi il écrit en anglais plutôt qu'en bengali, sa langue maternelle. Ainsi, la notion de pureté, de la langue, du genre, des références culturelles, etc., est-elle fortement mise à mal dans le roman de Bekunsat. L'auteur semble suggérer que, quel que soit le sens que l'on imprime à cette chimère du texte pur, l'intégrité textuelle est fonction de définitions et de limitations historiques et idéologiques, donc d'une reconnaissance, ne serait-ce qu'implicite, d'une autorité politique. Bekunsat épingle ce fantasme de la nation en mettant en scène le différend qui oppose deux professeurs indiens du département d'anglais au sujet de l'inclusion, ou non, de Joyce dans le programme. Le professeur Mishra prêche avec ferveur l'indépendance de l'Inde, tandis que Clark Kapoor préfère souligner la valeur littéraire intrinsèque d'Ulysse. Joyce is a great writer. This is now universally acknowledged. He is, for instance, the subject of increasing academic study in America. I do think he should be in our syllabus too. Dr. Kapoor, the high voice responded, each point in the universe must make up its own mind on the question of acknowledgement before acknowledgement can be considered to be universal. We in India pride ourselves on our independence, an independence won at great expense by the best men of several generations. We should hesitate before we blindly allow the American dissertation mill to order our priorities. If we do not keep pace with our companions, continued Professor Mishra, perhaps it is because we hear a different drummer. Let us step to the music that we hear, we in India, to quote an American, he added. Tran looked down at the table and said quietly, I say Joyce is a great writer because I believe he's a great writer, not because of what the Americans say. La notion d'universalité fait ici l'objet d'un débat particulièrement intéressant. Si le professeur Mishra exprime certaines méfiances à l'endroit d'une universalité captieuse, trompeuse, qui consacrerait en réalité la suprématie d'une seule nation, les États-Unis, Frank Kapoor semble quant à lui revendiquer une universalité de principe que l'on pourrait rapprocher des analyses de Kant sur le beau. Selon le philosophe, le jugement esthétique peut en effet légitimement prétendre à l'assentiment universel, bien qu'il ne s'agisse pas d'un constat extensif, mais bien plutôt d'une exigence, d'un devoir-être. Dans la joute qui oppose les deux professeurs de littérature, le point de vue de Pran est indubitablement valorisé, en premier lieu parce que le professeur Mishra est décrit tout au fil du roman comme un odieux personnage, mais surtout parce que son exhortation à l'indépendance de l'Inde s'effectue sur un mode tout à fait paradoxal. Sa harangue est en effet un pastiche, au demeurant assumé, de Thoreau. Le discours de Mishra fait en effet écho au dernier chapitre de Walden, où Thoreau se livre à une critique assez acerbe de la conformité. Aussi, l'argument du professeur Mishra semble-t-il vicié, miné de l'intérieur. La courte phrase « to quote an American » frappe soudain son discours de caducité. La langue charge inévitablement de l'étranger, comme le suggère également les arbotages des deux hommes sur l'expression « universally acknowledged ». Peut-être n'est-il pas abusif de déceler dans cette formule une allusion malicieuse de Vikram Seth à la première phrase de Pride and Prejudice, It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Et il me semble que l'omniprésence du pastiche que met en scène Vikram Seth inscrit de l'étranger, de la différence dans le texte, puisque le pastiche étant une forme de translation, c'est aussi une forme de traduction, alors même que l'anglais de Vikram Seth est particulièrement délibérément lisse et travaillé et ciselé. Pour conclure en deux mots, la réutilisation du canon victorien dans le Sudroboy ne produit donc pas un roman dans la norme et n'incarne pas non plus un quelconque relativisme comme le suggérait Jameson dans son analyse des pastiches, mais précisément le contraire, un lieu de résistance explicite à l'emprise de la norme, puisqu'il ouvre une brèche systématique dans tout système. Tout en réaffirmant le plaisir de la lecture à travers le retour à la tradition victorienne du roman fleuve, Vikram Seth dote ainsi le pastiche d'une dimension critique et proprement politique.